Bienvenue à l'épisode 14 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Éric Lheureux et en compagnie de Jean-François Nantel et de Véronica Marquez, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. À notre épisode d'aujourd'hui, nous discutons stratégie et plus particulièrement comment explorer les différents choix stratégiques. Bonjour Véronica, bonjour Jean-François.
Bonjour Éric, bonjour Jean-François.
Bonjour Véronica, bonjour Éric, content de vous revoir.
Bonjour vous deux. Écoutez, à l'épisode 12, on a discuté de stratégie, on a discuté de faire des choix pour réaliser nos ambitions d'affaires. On sait que la stratégie, c'est d'être centré sur le client qu'on veut servir, la valeur qu'on veut créer pour lui. Aujourd'hui, on veut explorer l'importance des choix pour réaliser nos ambitions, mais surtout comment qu'on explore les différentes possibilités, comment qu'on peut faire ces choix-là et comment qu'on peut tester à la limite, comment qu'on peut explorer les différentes alternatives possibles. Donc, évidemment, on sait qu'on cherche à définir des choix qui seront articulés dans un modèle d'affaires cohérent qui nous permettra d'être unique, dans notre création de valeur. À l'épisode 12, on a parlé des différentes de notre ambition stratégique, on a parlé de notre where to play, de notre modèle d'affaires, on a parlé de nos avantages concurrentiels quand on parlait du how to win, on a parlé de nos compétences clés, nos compétences distinctives qui nous permettent de soutenir ce modèle d'affaires-là par nos activités clés, les systèmes, les processus. On va discuter un peu plus tard du déploiement, de la notion de cascade des choix, de comment qu'on maintient notre alignement par rapport à nos priorités internes et externes. Mais d'abord et avant tout, aujourd'hui, je veux qu'on discute des choix stratégiques et des différentes possibilités. Dans un premier temps, quand on parle de faire des choix stratégiques, quand on parle d'explorer les différentes possibilités, je vous ramène, Jean-François puis Véronica, sur la thématique qu'on avait lors de l'épisode 12, quand on se disait, une réflexion stratégique, c'est pas seulement analyser des données, c'est pas seulement faire d'analyse quantitative, mais c'est surtout aussi regarder vers le futur. Et donc, ça nous amène dans une démarche qui se veut créative, puis une démarche qui se veut en même temps itérative. J'aime beaucoup ce que Roger Martin met sur la table comme approche. Roger Martin, en passant, c'est un ancien moniteur, c'est un ancien dean du Rotman Business School à Toronto. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi au niveau de la pensée stratégique et a développé un axe qui intègre le design thinking dans sa pensée et qui amène une pensée qui est un peu plus intégrative, un peu plus exploratoire aussi. Donc, ce que je veux amener aujourd'hui comme point de vue, c'est comment qu'on porte un regard vers l'inconnu, comment la stratégie sait porter un regard vers cet inconnu-là et comment qu'on doit aborder les incertitudes que cet inconnu-là nous amène. Il y a une démarche qui nous permet d'explorer, de faire des choix et de valider les différentes hypothèses et à quelque part, un peu, ça s'appelle prototyper sa stratégie. Ça nous permet de définir quelles sont les zones de certitude, les zones d'incertitude et comment qu'on les aborde pour pouvoir trouver réponse et définir un amalgame de choix qui nous amène à un modèle d'affaires qui est cohérent par rapport à la mise en place de notre stratégie. Il y a deux questions là-dedans qui, à mon sens, sont importantes. La première, c'est évidemment pour réaliser notre ambition, mais il faut qu'on explore, il faut qu'on ouvre la réflexion sur les différentes possibilités. Donc, comment pourrions-nous faire pour atteindre cette ambition-là? Et là, c'est une question qui ouvre la porte à quelles sont les options possibles, quelles seraient les stratégies possibles ou les choix du where to play, how to win, qui seraient intéressants à explorer. Ça nous amène à réfléchir dans ce sens-là de quelles sont les certitudes et quelles sont les zones d'incertitude qui sont associées à ces options-là.
Oui, et quand tu parles de ça, je pense à la carte de transformation de David de Tissier qui nous parle de changement agile, qui parle de tout un ensemble de choses. Mais sa carte de transformation est là pour valider que les projets, que j'ai dû le dire dans d'autres podcasts auparavant, qui sont de la stratégie appliquée, est-ce que ces projets-là sont bien alignés dans cette direction-là dont tu parles? Et cette direction-là, ou les différentes variantes qu'on veut explorer. Important de s'assurer de bien répondre aux besoins du client. Par exemple, est-ce que c'est plus important de réduire nos coûts ou au contraire d'intégrer de la communicativité, de l'Internet des objets dans nos produits. Toutes ces choses-là doivent être testées, mais s'assurer qu'elles soient aussi alignées dans la direction qui est la nôtre et qui est, au podcast précédent, je disais qu'il doit être personnifié.
Bien, c'est un autre élément où le côté Lean et Six Sigma ressemble beaucoup au côté agilité. Dans le monde du Six Sigma, on a un outil qui s'appelle Quality Function Deployment, le QFD, qui justement sert à la même chose. Donc, d'une part, on a les différentes solutions que nous, comme entreprise, on peut offrir versus les besoins ou les désirs des clients. Et en faisant une série de priorisations, on est capable de cibler sur quel projet ou sur quel effort mettre davantage de ressources pour pouvoir les voir se compléter. Donc, je pense que ça semble ressembler à ton outil que tu mentionnes.
Oui, tout à fait.
Puis quand on approche justement cette question-là de mettre sur la table différentes possibilités, bien ça amène aussi la question, comme vous le mentionnez tous les deux, bien qu'est-ce qui doit être vrai pour les clients? Qu'est-ce qui doit être vrai pour par rapport au marché, par rapport aux concurrents? Et qu'est-ce qui doit être vrai par rapport à nos capacités, à nos systèmes, nos processus pour pouvoir réaliser cette option stratégique-là? C'est la question que Martin parle quand il dit « What would have to be true? » Donc, ou à la limite, dans le design thinking, ça ramène à des questions de désirabilité, de viabilité et même de faisabilité au niveau organisationnel. Et là, ce que ça permet de faire, bien, ça permet d'approcher la stratégie sur un angle de définition de problèmes, d'idéation, d'exploration, de prototypage, mais de se concentrer, de bien voir qu'est-ce qu'on connaît et qu'est-ce qu'on connaît pas ou qu'est-ce qu'on connaît moins. Et là, ça va amener à se dire, mais qu'est-ce qu'on doit tester pour diminuer cette incertitude-là, pour améliorer le degré de résolution, si je peux dire, qu'on a par rapport à notre option stratégique. Et ça va amener que l'option 1, par exemple, on va accroître notre degré de confiance. L'option 2, on va peut-être accroître notre degré de confiance, peut-être une troisième ou une quatrième. Mais l'idée, c'est que ça va nous permettre en même temps de voir le choix ne sera peut-être pas sur l'option 1 versus l'option 2. Ça va être peut-être une option 3 qui va être un mix des éléments de 1 et de 2 qu'on a appris à travers la boucle d'apprentissage, à travers l'expérimentation qu'on aura fait par rapport à diminuer le risque qui existe par rapport à l'incertitude. Jean-François.
Oui, cette notion-là d'apprentissage reste au cœur. Quand je t'entends parler de design thinking au niveau stratégique, je ne peux pas m'empêcher de revenir avec l'agilité parce que le design thinking, c'est par définition de l'agilité. Véronica, tu rebondiras là-dessus tout à l'heure. Je pense que tu as plein de choses à dire, là, mais l'agilité, c'est agile dans le sens où le design thinker, c'est se mettre à la place de l'usager, du client. Et de rentrer en empathie profonde avec le client, se mettre à sa place pour bien voir un peu, finalement, c'est très agile, ça. C'est l'agile, c'est les user stories, c'est vraiment qu'est-ce que tu veux dans ton langage, dans ta façon de l'exprimer. Mm-hmm. Ça va nous amener à, c'est un peu ce que tu dis, test and learn, fail fast, enfin, toutes les variantes sur ce thème-là, mais c'est comme tu dis, il faut les tester pour apprendre. Tant que tu n'as pas appris, tant que tu n'as pas fait tes premiers essais, très, très difficile de savoir qu'est-ce qui va prendre, qu'est-ce qui ne prendra pas.
Puis je veux rebondir sur ce que tu dis, Jean-François. Il est extrêmement important de comprendre que quand on parle de test ici, il y a différents degrés de test. Les gens souvent vont penser qu'il faut faire des tests extrêmement sophistiqués qui prennent du temps. L'idée, c'est d'apprendre, de voir quelles sont les zones d'incertitude et d'accroître notre degré de certitude au fur et à mesure et à la limite de progresser dans le niveau de résolution des tests. Donc, partir, comme on parle souvent de fast and scrappy pour s'en aller dans des tests qui sont nettement plus raffiné au fur et à mesure que, dans le fond, notre degré de certitude augmente. Et ce que ça veut dire, ça veut dire que on est mieux de rapidement savoir dans quelle direction on doit aller que prendre 6 mois pour savoir dans quelle direction il faut aller. 6 mois, c'est déjà trop long. Donc, il y a une notion en même temps de rapidité à garder, ouais. Une notion de regard critique par rapport au niveau de résolution qu'on veut avoir par rapport à nos tests, par rapport à la réponse qu'on a besoin d'aller chercher pour valider l'hypothèse qu'on a.
Et, oui. Et ce que tu viens de dire va faire écho à ceux qui ont écouté le podcast la semaine précédente, l'entretien avec Matthew Cohen, qui parle de digital et de numérique. Excusez-moi, j'essaie de me convertir au numérique et non pas au digital. Et la vision que les dirigeants doivent commencer à embrasser du numérique. Et justement, quand tu parles de tests, d'essais, de validation de stratégie, le numérique est un extraordinaire facilitateur dans l'acquisition de données et tout d'aller voir un peu qu'est-ce qui se passe dans les mains des usagers ou dans les mains de nos clients. C'est un monde fascinant pour nous qui sommes, je pense, tous les trois un peu à l'extérieur des GAFA qui, eux, sont passés maîtres dans l'usage de la data.
Mais en fait, vous mentionnez plein d'éléments qui me font penser à un livre que j'ai lu d'un auteur qui s'appelle Alberto Savoia. C'est un ancien directeur ingénierie et innovation chez Google et j'ai eu la chance de le voir en conférence aussi, un personnage fort dynamique et intéressant à écouter. Lui, son concept, il part du prototypage. Donc, on connaît tous le principe de prototypage, sauf qu'il a inventé un nouveau mot qui s'appelle le prétotypage. Et donc, il fait un assemblage du mot prétendre et prototype. Voyons. Donc, sa manière d'approcher l'innovation pour tester le marché, pour tester si le produit, la solution, qu'est-ce qu'on veut apporter, si ça pourrait fonctionner, si le marché est prêt à recevoir ce qu'on peut proposer, c'est d'utiliser un principe de prétotypage. Dans son livre, il parle de plusieurs exemples, mais je vais vous en nommer trois que vous allez tout de suite reconnaître super facilement. Une entreprise, il y a à peu près une vingaine d'années, qui voulait tester le speech to text. Donc, qu'on parle à notre ordinateur et que l'ordi le retranscrive sur un fichier Word ou quelque chose comme ça. C'était là 20 ans, fait qu'on parle peut-être plus de Word Perfect. La compagnie voulait tester comment est-ce que c'était pour fonctionner et si les usagers seraient prêts à utiliser un outil de la sorte. Ben, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des gens dans une salle avec un ordinateur et un micro dans lequel ils dictaient leurs lettres à écrire. Le micro, le son du micro était dans la salle à côté, où là, il y avait des secrétaires qui devaient taper, je ne sais pas, des milliers de mots à la minute, qui retranscrivaient à l'écran manuellement ce que la personne venait de dicter, mais la personne à l'écran le voyait apparaître devant lui ou devant elle.
Oui.
Donc, un peu coûteux dans le sens que ça prend un certain équipement, mais beaucoup moins coûteux que de développer une solution informatique qui le faisait vraiment pour pouvoir tester s'il y avait de l'intérêt ou pas. L'autre exemple, c'est Airbnb. Quand ils ont commencé, il y avait 3 matelas à air soufflé dans une chambre de leur appartement à San Francisco. Ils avaient besoin d'argent pour payer le loyer. Ils se sont dit, ben, on va créer une page web, voir s'il y aurait de l'intérêt. Le soir même, il y avait trois personnes qui avaient réservé. Puis c'était une période où jamais on aurait pensé à aller coucher chez des inconnus pour passer la nuit. Mais ça leur a permis de tester le fait que, ben oui, il y avait de l'intérêt pour ce type d'accommodation-là. Et là, ben, on sait ce que Airbnb est devenu. Puis mon troisième exemple, c'est Tesla. Puis ça, c'est un exemple qu'avec les systèmes de crowdfunding, beaucoup d'entreprises peuvent mettre en place.
Ah oui.
Et c'est de présenter un produit sans nécessairement le fabriquer encore, mais d'aller voir l'intérêt du public à vraiment réellement dépenser de l'argent pour l'acheter, le produit. Mm-hmm. Donc, quand Tesla a présenté le Model 3, ils ont présenté un dessin, ils ont présenté une vision de qu'est-ce que le véhicule était pour représenter, mais ils n'ont pas commencé à fabriquer tant aussi longtemps qu'il n'y avait pas un certain nombre de dépôts de rentrée, ce qui, d'une part, leur a permis de financer, exactement, merci, je cherchais mon mot. Ça leur a permis de financer l'exploitation de la fabrication de ce véhicule-là, mais de l'autre part, ils ont pu valider que le marché était vraiment prêt à consommer et à aller acheter un véhicule de la sorte. Donc, c'est le prétotypage. Je vous le recommande, le livre est fort intéressant, puis il y a plein de petits exemples comme ça, mais qui vont peut-être allumer des idées de qu'est-ce qu'on peut mettre en place.
Mais Véronica, quand tu parles de prétotypage, dans l'ensemble des exemples que tu mentionnes, ça me fait penser, dans le fond, au concept de ou minimum viable product, le concept d'MVP qui a été mis beaucoup en lumière à travers Steve Blank ou à travers le Lean Startup d'Eric Ries. C'est les mêmes concepts. On est en train de dire, Il y a différentes façons de tester. On n'est pas obligé d'avoir le modèle 3 déjà de fait pour pouvoir commencer à voir si le marché est intéressé. Il y a des façons alternatives de le faire. Comme Jean-François, tu le disais quand tu parlais de numérisation, avec l'accès justement direct à nos clients que Internet nous donne, ben c'est une façon privilégiée d'aller chercher du feedback rapidement. Je browsais dernièrement Kickstarter, puis je voyais des trucs qui étaient typiquement de la validation de marché, et on peut voir qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui résonne moins, les commentaires des gens, comment qu'on doit tenir compte de ce feedback-là pour pouvoir développer le modèle 1 de notre série qu'on va lancer, ou si finalement on essaie de mettre quelque chose sur le marché, puis en fait, ce qu'on entend, c'est des criquets. Cette logique-là qu'on retrouve dans des produits ou des services, c'est un peu cette logique-là qu'on applique au choix de stratégie. Évidemment, c'est pas toujours une question de produit ou service dans ce contexte-ci. C'est une question de tester où sont nos incertitudes et comment qu'on peut les améliorer notre compréhension de ces incertitudes-là. Alexandre Joyce, à l'épisode 6, soulevait un point que je trouvais fascinant. C'est-à-dire qu'il disait, bon, évidemment, en design thinking, on va aller valider des éléments de désirabilité, de faisabilité et des éléments de viabilité, mais seulement un de ces trois points-là touche le client. Les deux autres sont des éléments sur lesquels on a du contrôle comme organisation. C'est vrai. Ouais. Dans une certaine mesure, parce que bon, on pourrait discuter à savoir si la viabilité est uniquement un facteur d'entreprise ou elle est associée aussi au client. Mais c'est vrai qu'on doit aller, peut-être d'abord et avant tout, au moins avoir un niveau de certitude plus élevé au niveau de notre client, la désirabilité, parce que c'est lui, ultimement, pour qui on travaille pour créer de la valeur. Notre stratégie repose, encore une fois, comme on le mentionnait, sur comment être unique pour notre client. Et donc, les facteurs de validation, bien, il y a des facteurs internes à l'entreprise, il y a des facteurs externes, il y a des degrés sur lesquels on maîtrise un peu plus les variables, il y en a d'autres sur lesquels on les maîtrise un petit peu moins. Mais je pense que c'est un terreau extrêmement fertile pour pouvoir justement aller explorer et mettre sur la table un degré de confiance plus accru par rapport aux différentes options qui sont les choix stratégiques qu'on veut, à la limite, qu'on veut considérer. Jean-François?
Oui, je veux juste compléter. Au-delà du fait que ça me donne envie d'appeler l'Office de la langue française là, pour leur demander si prétotypage, ça peut faire partie de comme clavardage ou ces choses-là, rentrer dans le vocabulaire français. Ça me rappelle aussi, les plus jeunes d'entre vous, d'entre nos auditeurs, s'en souviendront peut-être pas, mais McDonald's avait utilisé le Québec pour tester la Mac Pizza. Mac Pizza, d'ailleurs, si vous mangez une Mac Pizza en ce moment, eh bien, c'est que vous êtes soit dans une machine à remonter le temps, mais ça n'a pas été, entre guillemets, couronné de succès. Et moi, je suis pas n'étant pas un early adopter, contrairement à toi, Eric, qui aime bien adopter des nouvelles choses. Je suis pas un bon juge pour ce qui va coller et ce qui collera pas. Mais j'avais trouvé particulièrement intéressant l'idée de la part de McDonald's de faire ce test à grande échelle et le fait aussi qu'ils avaient choisi le Québec pour le faire. Donc ça m'était comme une fois qu'on aura fait le cas Nokia, on ira donner un petit coup de téléphone chez McDo pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé derrière la Mac Pizza. Un peu comme on appellera Google pour leur demander qu'est-ce que vous faites avec vos Google Glass, là? Où est-ce que c'est rendu, cette affaire?
Ah oui, effectivement. Ben, en fait, Alberto Savoia, il en parle dans le livre des Google Glasses, fait que tu pourras peut-être en apprendre un peu plus là-dessus. Mais moi, je vais revenir, Eric, tantôt, tu as parlé sur l'entrevue que tu as fait avec Alexandre, qui a passé à l'épisode 6. Puis, il y a quelques éléments de son entrevue qui, moi, m'ont vraiment beaucoup accroché. Puis, un de ces éléments-là, c'est quand il parlait de, dans toute la stratégie d'innovation de l'entreprise, faut pas oublier la créativité. Mm-hmm. Et les exemples qu'on donnait tantôt de comment tester notre produit, comment tester notre modèle d'affaires, notre service, demandent énormément de créativité. On a plus de moyens technologiques, de numériques pour pouvoir tester des choses, mais il faut quand même être créatif pour développer certaines de ces idées-là. Donc, la créativité, ce n'est pas seulement sur la stratégie elle-même, mais c'est sur comment on peut la tester pour aller chercher, comme tu dis, nos éléments d'incertitude et comment les adresser. Fait que je pense que la part de la créativité prend de plus en plus de place dans les organisations et elle doit se travailler autant qu'on travaille l'efficacité et l'efficience dans l'organisation.
Mais vois-tu, quand bien tu dit. Parles de créativité, moi, ça me fait réagir en disant, il faut être curieux. Il faut être ouvert à explorer différentes alternatives. Il faut être ouvert à apprendre quelque chose que nos clients, par exemple, si on parle de tester des éléments qui touchent notre clientèle, il faut être ouvert à découvrir des choses sur lesquelles qu'on peut après par la suite explorer encore plus, que ça soit quand je reviens souvent avec cet exemple-là, quand on parle du cycle de vie du avant, pendant et après de l'utilisation d'un produit ou service, ça ouvre la porte à un monde de possibilités qui permet justement de créer de la valeur. Il faut être ouvert à ça. Il faut être ouvert à l'explorer et à réfléchir, à se dire, mais peut-être que si effectivement il y a une alternative ou une opportunité intéressante, mais je vais vouloir par la suite à réfléchir à comment je transforme mon modèle d'affaires pour pouvoir tenir compte de cette possibilité-là. Et c'est, je pense que c'est là que tout potentiel créatif de la stratégie prend son essor. Puis on flirte un peu avec l'innovation, mais c'est tout ce modèle-là qui nous amène à se dire, mais on peut remettre en question certaines choses. Il n'y a pas d'a priori. Et donc, la créativité a un potentiel extrêmement fort. Jean-François?
Oui, un dernier point sur ces aspects-là. Aussi, c'est parfois, la phrase qui me vient à l'esprit, c'est « If you build it, they will come ». Hein? C'est un film avec Kevin Costner, ça s'appelait « Field of Dreams » à l'époque. Ça trahit mon âge. Mais c'est parce que je lisais cette semaine, ou je regardais plutôt une vidéo sur... qui nous explique la 5G et comme en quoi la 5G est importante et va changer beaucoup de choses. Ben en réalité, la 5G, c'est pas tant un saut quantique, excusez l'expression, en termes de vitesse de transmission, mais surtout le nombre, ça permet à un beaucoup plus grand nombre d'appareils de se connecter à la cellule, à l'antenne. Et à l'antenne, d'aller focusser un peu de manière un peu plus précise ou un peu plus intelligente sur d'où vient le signal ou d'où vient l'échange de données. Donc, ça aussi, c'est des sources, je ne vais pas dire une source de créativité ni une source d'opportunité, mais c'est un facteur qui rentre en ligne de compte dans ces expérimentations-là. Qu'est-ce que cette nouvelle infrastructure, ce nouvel équipement ou cette nouvelle technologie peut nous permettre de faire concrètement pour aller, comme tu dis, soit développer ou accentuer notre unicité, soit développer des nouvelles avenues pour l'entreprise.
Je prends ce que les deux vous venez de commenter et j'amène à, une fois qu'on a avancé dans nos tests, une fois qu'on a réfléchi par rapport à différentes options, je disais tantôt, par exemple, on a l'option 1, on peut avoir l'option 2, stratégie 1, stratégie 2. On a peut-être finalement atterri sur une stratégie qui est un peu hybride parce qu'on est allé chercher des éléments qui nous plaisaient dans 1 et 2 et dans 2, à titre d'exemple, et qui nous a apporté une stratégie qui, à notre sens, est la plus optimale, celle qui nous permet de vraiment aller de l'avant et rencontrer nos ambitions stratégiques, nos ambitions d'affaires à laquelle on veut déployer une stratégie. La question qui se pose, et pour ça, c'est pour ça que je parlais de processus créatif et itératif. L'itératif revient à l'étape actuelle, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait cette réflexion-là, il faut se poser aussi la question, c'est comment notre modèle d'affaires peut être soutenu, comment les avantages concurrentiels qu'on veut donc déployer, comment ceux-ci peuvent être soutenus par les compétences que nous possédons ou qu'on doit acquérir, ou par rapport, et où, par rapport aux activités clés qui sont nécessaires pour la réaliser, donc les activités, des processus, des systèmes de gestion qu'on possède, ou peut-être qu'il faut aussi développer. Et c'est une autre série de choix qui est drôlement important parce que c'est une chose de définir où on veut aller, comment, sur quel terrain de jeu on veut se déployer, comment qu'on veut être unique, mais il faut qu'on ait une réflexion aussi en même temps sur les compétences clés qu'on doit déployer et les activités et les systèmes qui doivent être en place. Et là, ça amène une autre série de réflexion et c'est pour ça que la stratégie, l'élaboration qu'on parle depuis tantôt est aussi un processus itératif. Il y a des choses qu'on peut faire tout de suite, il y a des choses qu'on devra transformer et il y a peut-être aussi des éléments sur lesquels il va falloir se re-questionner dans notre capacité à mettre en œuvre quand on considère ces éléments-là. Véronica?
Mais tu as mentionné plein de choses qui m'ont allumé plein d'idées. Premièrement, tu parlais de l'exploration nécessaire pour voir comment on va mettre en place la stratégie, comment on va la déployer. Je reviens encore une fois en l'entrevue avec Alexandre à l'épisode 6. Il a mentionné un élément de l'exploration versus l'exploitation. Puis je pense que c'est un élément critique. En fait, je me suis pris une note. On va peut-être faire un épisode sur le thème un peu plus tard. Mais se doter de la capacité d'explorer autant que d'exploiter nos activités quotidiennes, je pense que c'est critique pour pouvoir non seulement continuer à rendre le service qu'on doit rendre aujourd'hui avec les produits et les services qu'on a déjà aujourd'hui, mais pour pouvoir continuer à explorer où on veut s'en aller pour demain et comment on va s'y prendre pour demain. Donc, je pense que ça, c'est des éléments critiques. Mais comme j'ai dit, je pense que ça pourrait faire un podcast intéressant. Mais l'autre élément, c'est au niveau de le déploiement dans l'organisation puis la partie itérative. Dans la culture Lean, on utilise un outil qui s'appelle le Hoshin Kanri. Et je suis désolée, mon japonais n'est vraiment pas bon, fait que c'est sûr que je le prononce pas comme il faut. Mais en fait, c'est un processus de stratégie qui est cascadé dans l'ensemble de l'organisation. Et il devient itératif parce que on travaille au niveau de la haute direction sur la stratégie primale de l'organisation, mais ensuite, on le partage avec les équipes d'opération, d'informatique, finance, toutes les équipes de l'organisation pour, d'une part, permettre à toutes ces équipes-là de contribuer et de proposer des projets, des activités, des tâches X qui vont permettre d'atteindre cette stratégie-là. Et donc, l'information revient vers le haut ensuite. Donc, ça crée ce processus de cascade entre la haute direction et les équipes de l'entreprise. Mais plus loin que ça, puis c'est un des éléments que moi, je trouve un des plus importants dans cette approche-là, c'est que ça permet à l'ensemble de l'organisation de bien comprendre la stratégie de l'organisation.
Oui, exact.
Mais aussi de savoir, moi, dans mon quotidien, dans qu'est-ce que je fais à tous les jours, c'est quoi l'impact sur la stratégie et donc comment je peux aider l'organisation qui est critique. On ne peut plus être juste un numéro dans l'organisation, on doit faire partie du résultat de l'organisation. Oui. Et donc, je pense que ces deux éléments-là sont fort intéressants quand on parle de déploiement.
Oui. Et je rebondis sur ta cascade où moi, je préfère parler d'échange, hein, de l'information qui monte, qui descend, qui se brasse. En réalité, hein, c'est comme une soupe primaire d'information, mais où tous les niveaux doivent participer. Sinon, on se cantonne à dire la stratégie est dans le bureau au 7e étage. Et puis, les gens qui sont au contact du client ou qui fabriquent le produit ou qui livrent le service, eux sont complètement déconnectés de tout ça. C'est ce que j'aime aussi des principes Lean, c'est qu'ils forcent, en quelque part, ce dialogue. L'agilité, c'est relativement simple dans ce sens-là. C'est le product owner est au contact avec le client et c'est lui ou elle le pont entre le client, l'usager et l'équipe agile. Là, dans des grosses organisations, et je parlerai du Scaled Agile Framework un peu plus tard, mais dans les grosses organisations, ce flot d'informations-là prend une dimension un peu plus importante. Pourquoi? Parce que tu parlais d'idéation. Les commentaires, les remarques, les idées des uns et des autres vont allumer, vont créer des étincelles chez les uns et les autres. Et c'est dans ces échanges-là qu'on arrive à... Le mot est éculé, win-win, mais sans ce feedback-là, et c'est ce que la crise de la COVID-19 nous montre aussi, que le virtuel nous prive de cette spontanéité-là, de cette informalité-là dans les échanges, et ça, c'est un peu complexe. La seule chose qui rend la chose plus normale, c'est que tout le monde est impacté à peu près de la même manière. Mais bientôt, on va recommencer à retrouver cette informalité-là autour du déjeuner d'affaires, autour du lunch à la cafétéria, autour de la machine à café ou de la fontaine à eau, ainsi de suite.
Je rebondis de deux façons par rapport à la discussion qu'on a jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les choix qui se manifestent, je peux le dire de cette façon-là, ou le choix de la stratégie qu'on fait. Le choix qui touche le where to play, le how to win, les compétences qu'on doit déployer, les systèmes et les processus, les activités clés qu'on doit mettre en place. Tout ça, pour moi, ça, c'est dans un premier temps, cet ensemble de choix-là nous permet de savoir quel est le niveau d'écart qu'on a à travailler ou sur lequel on doit travailler par rapport à notre agenda de stratégie. C'est-à-dire, est-ce qu'on adapte notre organisation par rapport à qu'est-ce qu'elle est actuellement. Donc, peut-être que on ajuste le tir sur certains des éléments pour avoir une stratégie gagnante ou peut-être on va jusqu'à l'autre extrême, on parle de transformation de l'organisation parce que les écarts qui existent par rapport aux choix qu'on fait sont plus importants. Évidemment, l'agenda de travail, l'agenda stratégique va être différent par rapport à si c'est une adaptation ou si on parle de transformation. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième, quand vous parlez de cascade, bien évidemment, le déploiement de la stratégie va être affecté par ce niveau de transformation-là, évidemment. Et ce qui est important de retenir en arrière, c'est que, un, il y a le processus de cascade et de communication, mais il y a le processus après ça aussi qui est très important, qui est de maintenir l'alignement stratégique. C'est-à-dire comment, trimestre après trimestre, nos activités sont directement reliées à la ligne directrice ou à la stratégie de l'organisation, comment celles-ci font du sens, comment qu'elles permettent de renforcer un modèle d'affaires qui est cohérent et comment, en même temps, à chacun des niveaux de l'organisation, on y trouve notre compte, on est capable, on sait exactement quelle est la stratégie et comment que chaque jour, au quotidien, nos activités renforcent le positionnement qu'on veut avoir. Donc, ce processus-là, après ça, prend forme dans la réalisation. Puis, il y a différents outils, il y a différentes façons de l'aborder. On l'explorera de façon plus en détail. Véronica?
Bien oui, en fait, dans le déploiement et dans l'alignement de toutes les équipes, justement, dans le Lean, on a le Daily Management System ou le système de gestion au quotidien qui est fort intéressant pour ça. Mais comme tu dis, on va en reparler plus en détail. Mais il y a un mot qu'on répète beaucoup aujourd'hui à notre épisode et qu'on a répété beaucoup à l'épisode 12 sur lequel je voudrais revenir. On a parlé de la stratégie étant un choix. Puis pour moi, un choix implique automatiquement qu'on a des décisions à prendre. Et dans les décisions, c'est autant de dire notre fameux « on a toujours fait ça comme ça ». Je suis sûre que vous l'avez déjà entendu, vous l'avez probablement déjà dit vous aussi, mais le choix a comme deux côtés. Fait que notre fameux « on a toujours fait ça comme ça », il faut qu'on accepte de se dire, il faut qu'on fasse le choix, il faut qu'on prenne la décision. Bien, on l'a peut-être toujours fait comme ça, il nous a permis de nous rendre où on est aujourd'hui, mais ce n'est plus la méthode pour aller où on veut aller demain, donc on accepte de la mettre de côté et d'aller chercher cette nouveauté-là, cet nouvel élément-là, ou ce nouveau système, ou la nouvelle compétence, ou n'importe quel X là, qu'on a déterminé, qui va nous permettre d'atteindre la stratégie qu'on veut cibler pour demain. Donc, oui, on fait beaucoup de choix au niveau de la stratégie qu'on veut développer pour notre organisation. La stratégie, c'est l'ensemble des choix qu'on fait, mais ça veut aussi dire qu'on doit prendre des décisions comme gestionnaire d'entreprise, comme entrepreneur, comme propriétaire pour s'assurer qu'on met en place les bons X, les bons éléments pour réaliser ce qu'on vise pour demain. Puis pas de rester pris avec nos vieilles choses, avec nos nids d'écureuil qu'on refuse de mettre de côté. Jean-François.
Oui, je veux terminer ces échanges-là et cette discussion-là sur une citation de Clausewitz ou qui est attribuée à Clausewitz. La tactique, c'est savoir quoi faire quand il y a quelque chose à faire et la stratégie, c'est savoir quoi faire quand il n'y a rien à faire. Je veux juste, ça complète très bien ce que tu viens de dire. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire quand le choix n'est pas évident. C'est stratégique. Quand le choix est évident, c'est plutôt, ou je veux pas dire évident, mais quand le choix est plutôt la résolution de problèmes, on est dans la tactique. Et ça, c'est une façon de réfléchir à la stratégie et de voir et de vivre la stratégie en entreprise, des concepts que on essaie de vulgariser, de vous expliquer et qui sont pas toujours faciles à appréhender pour le commun des mortels, pour l'entrepreneur lambda, même le collaborateur lambda, peu importe son niveau d'éducation, ces questions-là sont un peu difficiles. Donc, stratégie, savoir quoi faire quand il n'y a rien à faire. Tactique, savoir quoi faire quand il y a quelque chose à faire. Ça fait écho à ce que tu viens de dire.
Je terminerai cette discussion-là avec le point suivant. C'est-à-dire que on entend souvent dire que la stratégie, c'est complexe, que ça demande, c'est comme tu l'as dit tantôt, c'est fait au septième étage, puis ça disparaît. J'espère qu'à travers les discussions qu'on a depuis deux épisodes, on permet de donner une saveur qui permet de rendre ça nettement plus dynamique, nettement plus concret, mais nettement plus proche en même temps de la réalité de qu'est-ce qu'on doit faire pour satisfaire nos clients. Il y a un point cependant que souvent, qui passe sous le radar, et c'est celui de maintenir l'alignement. Et c'est pour ça que l'épisode prochain, on va vraiment se concentrer là-dessus. Mais maintenir l'alignement touche le point que tu mentionnes, Jean-François, c'est-à-dire maintenir l'alignement, c'est faire en sorte qu'au quotidien, nos actions, les choix qu'on fait dans notre zone de compétence, dans notre cercle d'influence, soient continuellement alignés sur où l'entreprise veut aller par rapport à son plan qui a été déterminé. Et la seule façon de pouvoir le faire, c'est en ayant un processus d'alignement extrêmement rigoureux, mais qui permet un dialogue continu justement à travers les différents niveaux de l'organisation et qui permet en même temps un ajustement aux besoins si la réalité commerciale ou la réalité de notre marché ou par rapport à une réaction concurrentielle qui s'impose, nous permet justement d'aller chercher un ajustement. Fait que pour moi, la notion d'alignement, ça touche le point de quoi faire, mais ça touche le point aussi d'écouter et de communiquer, donner du feedback et de s'ajuster. On pourra explorer cet élément, pardon, de façon nettement plus approfondie au prochain épisode.
Oui, j'ai hâte d'en parler. Notre ami Henrik Nyberg, du côté Agile, nous dit « Alignment enables autonomy » et on en parlera au prochain podcast. Et aussi, éviter d'être des girouettes aussi, hein, parce qu'on a parlé de faire des choix, prendre des décisions. Il ne faut pas non plus devenir des girouettes, la saveur du mois ou la saveur de l'année. Et ça, c'est important de respecter jusqu'à un certain point, hein, encore une fois, l'ADN de l'entreprise.
La stratégie, donc, c'est comment être unique pour ses clients. Ça implique de faire des choix. Pour y arriver aujourd'hui, on a exploré une démarche qui nous permet d'optimiser nos options, réduire les certitudes et de développer, évidemment, les moyens de mettre en œuvre un avantage concurrentiel et d'atteindre nos ambitions stratégiques. On vous invite à consulter le site intelliaconsulting.com/épisode 14 pour les différentes notes de l'épisode et aussi s'inscrire sur le site pour rester au fait de nos différentes publications et parutions sur l'innovation, l'agilité et l'excellence. D'ici le prochain épisode, on vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine, Véronica. Bonne semaine, Jean-François.
Bonne semaine à vous deux. Encore un plaisir de jaser avec vous.
Oui, bonne semaine, Véronica. Bonne semaine, Eric. Le plaisir est entièrement partagé.
Allez, bonne semaine à vous deux. À bientôt.